Beauté, une émission de Christiane Hervaux sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver, parce que nous l'avons déjà entendu sur nos antennes, notre antenne ici, Marie-Hélène Bonny-Joly. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour, bonjour Christiane.
Je suis très contente de vous recevoir, d'autant plus que, je l'annonce déjà, vous allez quitter l'aumônerie des prisons.
Oui.
Voilà, c'est dit. Vous pouvez prendre vos mouchoirs, messieurs,
non.
Mesdames. Et donc, nous allons parler de cela, bien sûr, surtout, de ce parcours en prison, je dirais. Mm-hmm. Et puis, mais avant, peut-être vous pouvez nous dire quelques éléments de votre vie. Donc, vous avez 59 ans, vous êtes de famille protestante. Et puis, voilà, vous avez vécu à Sète, vous êtes mariée avec Olivier Bonny-Joly, qui est avocat et que beaucoup connaissent aussi ici à Nîmes. Et ensuite, vous avez fait plusieurs fonctions, notamment en Église protestante unie. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, juste pour dire...
Oui, rapidement.
Voilà,
alors,
rapidement.
C'est vrai que, en fait, je suis tombée dans la marmite protestante par ma naissance.
Oui.
Et à l'image de mes parents, je me suis souvent engagée, on va dire, comme eux l'ont fait, le font encore dans leur propre paroisse et association. Donc, nous sommes installés à Nîmes, je crois, en 88. Et voilà, on a été repérés, c'est bizarre, hein, mais les pasteurs de l'époque sont venus nous rencontrer et nous ont proposé diverses fonctions, que ce soit dans des associations, comme par exemple Château-Siol, ou même au sein de l'Église, à l'époque l'Église réformée de France, à Nîmes. Donc, je me suis engagée dans la paroisse de l'Oratoire, j'ai fait du catéchisme avec les pasteurs Manoël, pasteur Bouzy, pasteur Capoul. Voilà, et puis petit à petit, je me suis davantage rendue disponible. J'étais auparavant enseignante à la Chambre de commerce. Et puis dans les années 2000-2003, j'ai cessé mes fonctions. Et du coup, j'étais libre de pouvoir donner de mon temps dans la paroisse. Je suis devenue présidente du conseil presbytéral de Nîmes. Voilà, je me suis aussi engagée au niveau national, par exemple au Conseil national de l'Église réformée de France, à l'époque où elle s'est unie avec l'Église luthérienne. Ça a été une expérience extrêmement riche et aussi intéressante sur le plan juridique, parce que j'ai une formation de juriste. Voilà, je me suis aussi engagée au Conseil régional de notre Église protestante unie. Aussi, quoi dire, plusieurs lieux, des lieux différents, à la fondation du protestantisme également, voilà. Et puis surtout, j'ai aimé découvrir à chaque fois des personnes nouvelles, des enjeux nouveaux, différents, voilà. Et puis, et surtout, ce qui m'a, je dirais, le plus passionné, c'est l'aumônerie des prisons.
Voilà. Donc, vous avez fait une formation, peut-être,
oui.
Pour vous engager là-dedans.
Alors,
parce que votre formation de base juridique, donc vous avez un DEA de droit pénal et sciences criminelles.
Oui, fait, sans le savoir, voilà, j'étais déjà attirée vers le milieu carcéral. Et je ne sais pas, je dis souvent, j'ai fait des études de droit, je me suis engagée comme bénévole et dans le service auprès... de mon prochain auprès des autres. Et puis tout d'un coup, grâce à Micheline Delors, je dirais, qui était à l'époque aumônier à la maison d'arrêt de Nîmes et qui allait prendre sa retraite, eh bien les choses se sont rejointes. Enfin, mes expériences comme ça ont pu être mises au service des personnes détenues. Alors j'avais fait une première formation à l'écoute. Quand je suis devenue présidente du conseil presbytéral, ça me semblait important de... parce que j'étais assez sollicitée par les paroissiens, et puis aussi je me devais d'être à l'écoute des pasteurs. Et puis ensuite, j'ai fait une formation beaucoup plus approfondie avec le CPLR. C'est un organisme qui forme les pasteurs, en fait, qui propose une formation continue. Donc là, j'ai été formée pendant 2 ans à l'Institut de protestante théologie de Montpellier, avec d'autres aumôniers, essentiellement des aumôniers d'hôpitaux. Voilà, puis enfin, j'ai mis une petite touche supplémentaire et beaucoup plus profonde avec une petite formation en théologie, toujours à l'IPT de Montpellier. Pendant 3 ans, voilà, j'ai suivi des enseignements de grec, d'hébreu, d'Ancien Testament, Nouveau Testament, mais je veux dire, c'était pour me faire plaisir, quoi.
Oui, pour vous-même, vous n'aviez pas parlé grec ou hébreu.
Ah non, pas à la prison, mais c'était un bonheur de, voilà, d'aller chercher un peu à la source.
Oui, à compléter et à se former soi-même, pour soi-même aussi, c'est important, bien sûr. Et donc, tout ce bagage, est-ce que c'est ça qui a fait que vous aviez envie de vous engager auprès des détenus, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose... Qu'est-ce qui vous a amené à y réfléchir peut-être d'abord et à vous passionner, parce que vous êtes vraiment passionné par l'aumônerie en prison. On sent quand on vous avait parlé quelquefois ou dit des témoignages lors de cultes. On sent ça chez vous.
Alors, certainement que je me suis orientée quand j'étais étudiante en droit pénal et sciences criminelles parce que j'avais une sensibilité et un intérêt pour la chose pénale, comment notre et sociétale également, comment notre société peut accueillir des personnes qui commettent des infractions et continuer à les intégrer et à vivre avec ces personnes. Ça m'a toujours intéressée. Mais voilà, je crois que c'est un parcours qui s'est fait petit à petit, et puis peut-être aussi dans ma vie plus personnelle, plus intime, familiale, voilà, des moments qui ont révélé cet attrait, cet intérêt.
Le fait que votre mari soit avocat, est-ce que ça a influencé ou
non, parce que je n'ai pas du tout en droit pénal, donc il est plutôt en droit du travail, rien à voir.
D'accord. Et cet engagement, donc, il a eu lieu en 2012, je crois.
Oui, c'est ça.
Vous avez commencé en 2012. Ça s'est fait comment avec l'Église protestante? Vous avez dit votre intérêt et ça s'est...
Voilà, pour devenir aumônier, il y a toute une procédure, à la fois demandée par l'administration pénitentiaire. Il faut un casier judiciaire, il faut faire tout un dossier, le préfet donne son avis. Voilà, c'est assez complexe. Et puis, il faut aussi être envoyé par... notre Église. Et là, c'est la Fédération protestante qui chapeaute, on va dire, les aumôniers protestants. Donc, le Conseil régional de l'Église protestante unie de l'époque m'a autorisé, en fait, m'a chargé de cette mission-là. Voilà.
D'accord. Alors, le premier jour, vous êtes rentrée...
Terrible.
En prison.
Ah, terrible. Alors, c'était pas mon premier jour, parce que dans le cadre de mes études, j'avais déjà visité des prisons. Mais là... nous avons toujours été deux aumôniers à Nîmes, deux aumôniers
donc
protestants.
Donc c'est la maison d'arrêt de Nîmes.
Oui,
c'est ça. Voilà, je l'ai pas
et
dit tout à l'heure. Non.
L'aumônier qui était à l'époque en poste m'a dit il y a une femme détenue qui t'attend. Alors ça m'a mis une pression terrible parce que je savais ce qu'elle avait fait et ça peut paraître mineur pour certains, mais pour moi c'était compliqué. Elle était incarcérée pour des faits de violence raciste. Et je me demandais comment j'allais pouvoir lui parler, qu'est-ce que j'allais pouvoir lui dire. Et en fait, j'ai découvert que j'avais rien à dire, mais simplement à écouter. Et alors, l'anecdote, c'est qu'elle était dans une cellule, d'abord c'est une dame charmante, elle était dans une cellule avec une personne d'origine arabe. Et elles étaient les deux, ces deux femmes étaient devenues amies. Et en fait, je me suis dit,
c'est l'ironie du sort,
voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a boostée pour toutes les autres visites que j'allais pouvoir faire.
Oui.
Parce qu'il faut savoir qu'en prison, les aumôniers peuvent entrer dans les cellules. Donc, on a la clé et on rentre dans l'intimité de la personne. On est vraiment en face à face, en vis-à-vis avec elle. Bon, bien entendu, il faut que les personnes le demandent. Hein. C'est pas, on ne rentre pas comme ça.
Oui, c'est ça. Donc elles font la demande et vous allez à leur rencontre. Et vous allez, vous avez toujours été que du côté des femmes.
Parce non, pas du tout. Ah, pas du tout. Au tout début, oui, qu'avec les femmes. Et puis très vite, j'ai souhaité visiter aussi les messieurs. Voilà. Et d'ailleurs, à la maison d'arrêt de Nîmes, il y a 350 messieurs pour 50 femmes. Voilà.
D'accord. Oui. Ça fait du monde quand même un peu.
Ça fait énormément de monde.
Entassé là-dedans, je dirais.
C'est du 200% d'occupation. Non, c'est,
oui, Ouais, on entend beaucoup parler hein, de ça, de cette difficulté en prison. On ne va pas s'attarder là-dessus maintenant, mais qu'est-ce que vous... comment dire? Qu'est-ce que vous pouvez retenir ou qu'est-ce que vous retenez maintenant de ce temps de rencontre? Qu'est-ce que les détenus eux-mêmes vous ont appris?
Alors, ce que je peux dire, c'est que bien que ce soit un lieu extrêmement hostile, bruyant, violent, j'ai fait des rencontres incroyables, en fait. Parce que les gens qui sollicitent les aumôniers sont des personnes qui sont, je dirais, en vérité. Bien sûr, enfin, il faut qu'une confiance s'installe, hein, c'est normal. Nous, on est soumis au secret, hein, donc on ne va pas répéter, dévoiler ce que la personne nous a confié. Et à partir de là, il se dit des choses extrêmement profondes. J'ai été souvent bouleversée par les parcours de vie des personnes que je rencontrais. Parfois aussi, même souvent, j'ai pu être choquée par les faits commis lorsqu'ils m'étaient confiés. Parce qu'il faut savoir que les aumôniers n'ont pas accès au dossier des personnes. Hein. Donc on n'a que ce que la personne veut bien nous en dire. Et c'est vrai que parfois, ça peut déstabiliser, ça rejoint des parcours personnels, voilà, ça peut nous ébranler. Mais malgré tout, il y a une sincérité et une avidité d'être écouté, d'être replacé dans sa posture d'humain, je dirais. Mmh. Et ça, c'est incroyable.
Oui, d'être reconnu, d'être vraiment accepté.
Voilà. Et alors, je ne sais pas si j'y suis parvenue. J'espère pour certains les avoir aidés à cheminer. Et en retour, c'est moi qui ai reçu, en fait. Voilà. Je crois que je suis rarement ressortie de la prison avec un goût amer. Au contraire, à chaque fois, une lumière, quelque chose qui m'était donné à moi. Peut-être à leur insu, hein. Mais... voilà, c'est assez difficile à décrire, en fait.
Oui,
ça
oui,
se vit.
Ça, je comprends, parce que c'est plein d'émotions en même temps. C'est plein de réflexions, d'émotions, de choses du vécu qui sont difficiles à dire, à mettre des mots vraiment dessus.
Et aussi, beaucoup d'empathie de la part des personnes détenues envers les aumôniers. Hein, je parle, pas que moi. J'ai l'année dernière été assez malade, j'ai dû arrêter pendant un temps mes fonctions et j'ai reçu des tas de messages, des courriers ou par l'intermédiaire d'autres aumôniers. Je continue aussi une correspondance avec des détenus qui ont été transférés ou qui sont sortis de prison, soit par lettre, soit certains ont la possibilité de me téléphoner aussi, ont eu l'autorisation des magistrats. Mais c'est extrêmement touchant de voir leur sollicitude. j'ai l'impression que c'est davantage eux qui donnent que moi, je ne peux leur donner.
Oui, ils ont besoin
de
confier, de vivre quelque chose avec quelqu'un de vrai, je dirais, en face de ces questions de vérité.
Ah oui. On ne peut pas se défausser.
On
ne peut pas botter en touche. Et parfois, ça m'a mise un peu en porte-à-faux, parce que quand ce sont des questions de théologie, de foi, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas forcément la même attente, la même approche que moi. Et donc, ça m'a recentrée et ouverte en même temps. J'ai finalement été capable d'accueillir la différence dans la religion chrétienne et même dans non-chrétienne. Et de me rendre compte que Dieu est là, Dieu est à l'œuvre et qu'il a mille visages, mille façons de se révéler. Voilà.
Merci pour ce témoignage, cette confiance aussi, ce que vous nous confiez. Et puis là, ce n'est pas qu'à moi, c'est à tous ceux qui vont vous écouter, j'espère, avec plaisir. On va faire une petite pause de musique, Marie-Hélène Bonijoli. Vous avez choisi « Puisque tu pars » de Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Alors voilà, nous allons l'écouter maintenant. puis nous nous retrouvons juste après pour la suite de notre émission.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus et vous écoutez le 103.2. Vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien en podcast sur radioalliance.fr. Et aujourd'hui, je suis avec Marie-Hélène Bonnet-Joly, qui a été aumônier des prisons de 2012 à 2024. Et comme elle part, un peu comme l'a dit Jean-Jacques Goldman, eh bien voilà, nous sommes en train de revenir un peu sur ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle nous dit de ses rencontres avec les détenus, ce qui l'a touché, ce qui a pu la traverser dans son parcours de foi. Il y a eu l'arrêt avec le Covid.
Oui.
Comment est-ce que ça s'est passé là?
Ça a été compliqué, surtout pour les personnes détenues qui étaient privées de toute visite. Donc leur famille ne pouvait plus se rendre par Loire. Et nous, les aumôniers, nous ne pouvions plus nous rendre dans les cellules ni organiser des cultes. Tout de suite, la Fédération protestante de France est intervenu auprès du ministère pour qu'on puisse mettre en place un numéro vert, enfin ou bleu, enfin je ne sais pas la couleur, mais gratuit. Et on a fait des sortes de permanences et on a pu recevoir des appels de personnes détenues de toute la France. Donc moi, je prenais un créneau de temps en temps et j'avais des contacts avec des personnes qui étaient en demande et qui vivaient une double privation de liberté, en fait, à ce moment-là. Okay. Avec mon collègue Franck Massler, qui était aumônier, qui est toujours aumônier, et qui a commencé le pauvre juste pendant le Covid, on a mis en place aussi tout un système de lettres. Donc, on envoyait des courriers assez régulièrement à toutes les personnes détenues qui faisaient partie de nos listes, pour garder un lien avec ces personnes.
Et pendant votre arrêt maladie, ça a été un peu la même chose. Vous nous avez dit, disons que c'était moins.
Alors pendant
moins
mon
souvent,
arrêt de travail,
il y avait votre traitement.
Oui, je me suis arrêtée tout l'hiver en fait, de novembre, de décembre, on va dire 2022 à Pâques 2023. Donc là, j'avais besoin d'être en dehors de la prison, de prendre soin de moi.
Oui, bien sûr.
Et je suis revenue pour le culte de Pâques. Et là, ça a été vraiment une ouverture du tombeau. C'était là aussi quelque chose d'incroyable pour moi. Le culte qu'on a célébré, on a choisi de parler de Lazare qui sortait du tombeau. Et voilà, et je leur ai dit que moi aussi, voilà, ce retour, ça semble incroyable, mais ce retour parmi les personnes en prison, c'était ma sortie du tombeau. Voilà, c'était un moment
ça devait
fort.
Être vraiment très émouvant pour les, enfin, d'une
oui,
part pour vous,
ouais,
et puis pour les
pour
personnes, cette image de la sortie du tombeau, c'est...
Ouais. Pour les cultes, on a l'habitude de faire à peu près un culte par mois. Il faut dire que quand j'ai commencé l'aumônerie des prisons, l'aumônerie protestante ne faisait pas de culte. Il y avait l'aumônerie catholique qui faisait quelques messes, mais peu. C'était compliqué à organiser, en fait, par rapport à l'administration pénitentiaire. Et par exemple, à Nîmes, alors que dans d'autres établissements, la plupart des établissements, ça se fait le dimanche ou le samedi, à Nîmes, ça n'est toujours pas envisageable pour des questions matérielles. Et donc, petit à petit, on a pu mettre en place les cultes et maintenant, on les fait une fois par mois. Et alors, on essaie de calquer, de rester au plus proche des cultes que nous pouvons faire dans nos paroisses de l'Église protestante unie, mais malgré tout, on essaie de s'adapter quand même aux personnes qui viennent, qui sont rarement protestantes et qui, quand elles sont protestantes, ont des pratiques un peu différentes. Par exemple, quand ce sont des personnes qui viennent d'autres pays, voilà, c'est pas, on ne retrouve pas notre liturgie classique ni nos prédications plutôt intellectuelles.
Oui.
On a à cœur d'être toujours toucher l'auditoire qui est en face de nous, d'avoir un moment d'échange également. Et je leur dis souvent, ou je leur disais, c'est un moment de liberté pour vous. On a un texte biblique, il n'est pas figé. On peut le travailler, on peut dire ce qu'on ne comprend pas, on peut le critiquer positivement, négativement. Et ça, je trouve que c'est un peu une richesse de permettre aux personnes d'avoir ce recul sur le texte. Et donc, même si ça ne se fait pas dans nos cultes traditionnels réformés, on va dire, d'avoir aussi un moment un peu de témoignage personnel, de rejoindre l'autre qui vit un enfermement, pour qui ça n'est vraiment pas facile, les conditions sont compliquées, si nous aussi nous avons vécu un enfermement, voilà, de pouvoir le partager.
Oui.
Et c'est ce
que
j'ai fait.
D'avoir une approche comme ça,
culte de Pâques, voilà.
Libre en fait, humaine, de humain à humain, voilà. Je dirais.
Voilà. Alors c'est vrai que quand il y a des stagiaires de l'IPT qui viennent, qui accompagnent les pasteurs, voilà, ils sont un peu surpris certainement de ces cultes-là, qui sont certainement moins des enseignements, on va dire. Hein? Mais le retour, en tout cas, qu'on a des personnes détenues, c'est important pour eux, c'est des temps qu'ils apprécient et qu'ils demandent de façon intense. Ils aimeraient que ce soit toutes les semaines, mais on ne peut pas.
Il y a une équipe qui fait ça avec vous ?
Alors, on
ne
peut pas avoir de bénévoles comme dans les aumôneries d'hôpitaux ou de maisons de retraite. On ne peut pas avoir une équipe de visiteurs avec nous. Ouais. Mais pour les cultes, on peut être accompagné de certaines personnes. Et donc, depuis plus de 10 ans, Paul Blaise nous accompagne à la guitare. Hein, Paul Blaise, que vous connaissez, qui est président de la commission des orgues, ici à Nîmes, qui joue régulièrement dans nos temples. Et donc, pour tous les cultes, il est avec nous. Il participe non seulement à la guitare, mais aussi à l'élaboration du culte. Ça, c'est très précieux. Et puis, à d'autres moments, on a fait des partenariats avec l'aumônerie hospitalière. On a vécu des cultes communs en prison ou avec d'autres personnes. Sylvie Valette aussi également est venue pour Noël une fois, dire un conte de Noël. Voilà. Ou aussi, j'ai pu faire venir des chorales. Et alors, c'est toujours très, très apprécié.
Oui.
Par les deux, d'ailleurs. Je me souviens d'une fois, un culte de Pâques, un petit groupe de la chorale des Denimes Singer était venu chanter. Et pendant le culte de Pâques, une femme détenue a été remise en liberté. Le surveillant est arrivé. Il lui a dit, vous êtes libérable. Et donc, voilà, pof, pendant le culte, de Pâques, de renouveau, de tout ce qu'on veut, voilà, cette femme, elle est remise en liberté. C'était incroyable. Et quand je recroise les choristes qui étaient venus, à chaque fois, on en parle.
Oui, c'est quelque chose qui marque, c'est sûr. Et pour vous aussi, donc, c'est quelque chose qui vous a forcément marqué, qui va cheminer encore au long de votre vie et de votre vie de foi. Et puis, eh bien, donc, c'est le départ. Vous avez annoncé, hein, vous nous l'avez pendant l'Assemblée Générale de l'Église Protestante Unie, mais je pense que c'était déjà dit avant à d'autres personnes, évidemment. Et donc, officiellement, voilà, maintenant, on sait que vous n'irez plus en prison, entre guillemets, en principe, en tout cas à ce titre-là. Et vous avez des projets pour la suite, ou bien c'est pour l'instant vous posez et vous reposez peut-être aussi suite à votre maladie ou en train de mijoter d'autres projets? Dites-nous.
Alors,
ça.
Pour l'instant, je dirais que je suis dans un sas de transitoire. Je me laisse jusqu'à la fin de l'été pour m'ouvrir à d'autres projets. Je pense que d'autres projets viendront à moi sans que j'aie à les chercher. Je suis encore membre de quelques commissions de l'Église, hein, commission de discipline ou la commission des nominations pour le Conseil régional. Donc, je suis encore bien active au service de notre Église. Peut-être dire un mot des raisons pour lesquelles j'ai souhaité arrêter cette mission, ce ministère d'aumônier. J'ai senti à un moment, depuis septembre en fait, que je n'étais plus vraiment disponible. Pas humainement, mais voilà, tout l'univers violent de la prison m'est devenu assez difficile à supporter. Cet été, il y a eu ce drame dans une de nos cités à Nîmes, à Pissevin, où un petit garçon de 10 ans est mort d'une balle perdue suite à un règlement de compte pour des affaires de drogue. Ça m'a ébranlée. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je ne supportais plus cette violence. Peut-être le fait que, voilà, pour moi, l'hiver que je venais de traverser, la vie a une telle valeur que je me suis mise à douter de ma capacité à accompagner des personnes pour qui la vie avait moins de valeur. Je trouvais que c'était plus très juste pour ces personnes-là que je continue à les visiter et qu'il valait mieux que d'autres personnes le fassent. D'accord. Voilà.
Très bien, merci de nous dire ça parce que c'est pas forcément évident et puis c'est bien d'avoir senti quand c'était le moment d'arrêter. C'est pas toujours facile de le savoir. Donc je pense que vous avez été accompagnée par celui qui est présent toujours près de nous.
Oui, oui.
Et puis voilà, alors bien. Il nous reste plus qu'à vous dire merci, Marie-Hélène Bonnet-Joly. Merci d'être venue ici. Merci pour ce temps d'aumônerie en prison, tout ce que vous avez donné et reçu.
Oui, beaucoup reçu.
Et puis, bonne suite à vous.
Merci
pour
beaucoup.
Vos futurs projets.
Merci. À bientôt.
Oui, à bientôt. Au revoir.